Je peux vous répéter ce que je vous ai dit avant de commencer l'émission. En fait, je n'ai pas le trac, mais je suis émue. Vous savez, quand on a attendu longtemps de rencontrer quelqu'un, ben, quand on est en face de soi, comme ça, tout d'un coup, ça fait un petit pincement au cœur agréable, parce que je vous aimais depuis que j'étais née. j'ai toujours été là quand vous faisiez un spectacle. J'ai toujours aimé vos disques et j'ai toujours écouté. Il y a quelques jours à l'Olympia, et comme d'habitude, eh bien, j'étais bouleversée. Voilà, j'ai fait mon compliment. C'est dur de recevoir des compliments, non?
Vous savez, moi, quand ils viennent du cœur, ça me fait très plaisir.
Et, c'est vrai.
Et les vôtres viennent du cœur, je le sens. Et
oui.
Voilà. Cela dit, il y a des gens qui font des compliments parce que c'est la mode comme ça. Alors,
oui.
Je dis rien du tout, je souris et puis j'écoute.
Oui.
Je fais semblant d'écouter. Quoi.
Alors, l'Olympia, on est tous venus comme une cérémonie. Quand on vient vous écouter chanter Léo Ferré, c'est la fête et puis c'est la cérémonie aussi quand même. On ne lâche pas un de vos mots. Et Dieu sait s'il y a des flots de mots
qui
te rendent musique.
Oui, je n'ai pas la messe, moi, quand même.
Oui.
Une sorte de messe païenne, peut-être.
Oui.
Ouais.
Je sais que la messe, oui. Vous en avez ras-le-bol parce qu'on vous l'a infligée pendant des années. On en reparlera plus tard.
Ouais.
Alors, ce qui nous a tous fascinés, c'est que vous êtes incroyablement jeune. Toujours, avec votre regard tendre et sarcastique et malin et très drôle, et vous avez fait rire très souvent, et vous êtes toujours cette incroyable jeunesse d'allure, de mouvement, de oui. cœur.
Oui, mais ça, je dois dire qu'il faut que. Il faudra qu'on me donne un conseil, parce que
oui.
quand je change de lit, j'ai un lit nouveau maintenant, parce
oui.
que j'habite en Italie, j'ai mal au dos.
Oui.
Et alors, ça, j'aime pas ça, vous comprenez. Puis ça me fait très mal quand je me lève. Je me dis, Léo, t'as pris un coup de vieux quand même. Je l'ai dit tout à l'heure à un copain. Et il m'a dit, il faut aller voir quelqu'un comme ça. Vous connaissez quelqu'un, ça peut s'arranger, ça, croyez.
Quand on a mal au dos.
Oui, mais après, j'ai plus mal quand je me lève. Hein.
Il faut prendre oui. un bon matelas.
Ah oui, c'est ça.
Pour
oui,
moi, mais un matelas très dur.
Eh, non, je crois pas.
Non
moi, c'est un matelas de laine, il paraît que c'est très rare maintenant. Alors.
Ah bon
oui. Ma mère en faisait, mais.
Alors, Léo Ferré, vous avez mal au dos peut-être, mais ça ne se voit pas. Vous bougez, vous dansez, vous venez nous voir dans la salle, vous parlez. Vous aimez bien nous parler.
Oui, je pense que, vous savez, je sais parce que je suis sur une scène avec un micro. Je
ouais.
suis haut, d'ailleurs.
Ouais.
Avec un micro, avec des projecteurs. Et évidemment, je suis sur la scène très lucide, mais je suis un autre personnage que je suis dans la vie, vous voyez.
Ouais.
Et quand je sors de scène, il y a des gens qui s'imaginent encore que je suis ce personnage qui était sur la scène. Et alors, j'essaie de rectifier, puis je ne me rends plus compte parce que les gens, comment dirais-je, cette histoire de l'idolâtrie, n'est-ce pas, que
oui.
je ne peux pas supporter. Et j'ai essayé, quelquefois, de me désidolâtrer.
Hein. Oui.
Et j'ai eu tort. J'avais tort parce que les gens ne comprennent pas. Je vous raconte une petite histoire très courte. J'étais en 69 à Bobino, je sortais de Bobino, j'allais manger une soupe à la brasserie polonaise en face. Je dis une soupe parce que j'ai pas faim quand j'ai chanté. Et il y a une femme qui était dans la rue du Maine, je crois que c'est ça. Oui. Et non.
La rue de la Gaîté.
La Gaîté, oui. Oui, bien sûr. Et une femme âgée, hein, 75, 78 ans. Qui tremblait, il y avait une voiture. Et alors je lui dis, écoutez madame, vous êtes malade. Faites attention, il y a des voitures.
Oui.
Et vous tremblez. Alors il me dit, comment voudriez-vous qu'on ne tremble pas devant un Dieu? Alors ça m'a démoli. Je lui dis,
ça vous fait peur?
Non, non, je lui ai dit, écoutez madame, le Dieu, il est arrivé tout à l'heure, 3 minutes avant de rentrer en scène, parce que j'aime pas rester dans les coulisses ou dans la loge. Il a chanté, et puis maintenant, il sort. Il va manger quelque chose. Avant, il va faire pipi. Puis après, il partira tranquille. Dans la rue, il prendra un taxi ou bien un copain oui. l'accompagnera. Il ira se coucher tranquille, comme ça, seul, parce que maintenant, il est seul. Et cette femme est partie en me créant. Elle m'en a voulu.
Oui, parce que vous avez dérangé son rêve. Vous l'avez
oui,
vous avez
alors
cassé
ça,
son...
je dois dire que.
Oui.
Bon, je dis rien, quoi.
Mais vous aimez quand vous aimez, mais pas quand vous idolâtre. C'est pas la même chose.
Non, c'est ça, oui.
C'est pas tout
je
fait
n'aime
pareil.
Pas qu'on me. Qu'on me hait non plus.
Ouais.
Ah, c'est terrible ça. Il y a des gens qui me connaissent pas, qui me haïssent. Ça, je peux pas supporter. Quand je le sais, je suis pas content. Quoi.
Ça vous fait toujours du mal?
Pas du mal, mais enfin, ça me gêne. Quoi.
Ça vous agace?
Ça m'agace parce que je suis le contraire de ce que les gens imaginent. On dit que je mets à la porte les gens, que je suis bourru, que je suis grossier. Alors je dis à ce moment-là, mon père m'a bien élevé.
C'est une chose que vous ne faites pas.
Ça, quoi. Ouais. Voilà.
Mais ce sont des réputations comme ça qui traînent un peu. L'autre jour, quand je suis venu vous voir, je ne pensais pas que vous mettriez à la porte. Et je vous ai observé avec d'autres personnes qui venaient vous dire qu'ils vous aimaient et qu'ils vous admiraient, que vous ne connaissiez pas. Je vous ai trouvé très charmant et très gentil avec tout le monde.
De toute façon, je me permets de vous dire qu'il ne me viendrait pas à l'idée de mettre à la porte une voix comme la vôtre.
C'est gentil. Là, vous me touchez hein, pour l'instant de mes jours. Alors, vous savez ce que j'aime aussi chez vous, Léo Ferret, c'est justement ce que vous disiez là à l'instant. On aime bien vos délires, on aime bien les mots que vous poussez comme ça à fond, les sentiments que vous poussez à fond. Mais moi, je sens, et on sent, je ne suis pas la seule, on est des milliers et des milliers, que vous avez un cœur extrêmement simple. Et c'est vous qui le dites d'ailleurs, que vous avez un cœur simple.
Oui, alors, et puis je suis d'abord très, 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 beaucoup trop sensible.
Très sensible,
oui. Très sensible.
Écorché vif.
Pas écorché vif, non, du tout. Je suis sensible comme un enfant et je me retiens des fois. Vous savez, si je me mets à me laisser aller, parce que je suis toujours lucide en scène, souvent je pleurerai. Il ne faut pas pleurer parce que ça passe plus, ça marche pas.
Oui.
Ça,
oui. Nous, on a le droit de pleurer en tant que spectateur.
Oui, bien sûr, oui.
Mais vous n'avez pas le droit.
Non.
Vous avez le droit de nous faire pleurer, en fait. Oui. Alors, il y a une chose que, justement, je parlais du cœur simple, c'est parce que vous avez raconté un jour que la chanson qui a tant marché à un moment donné, qui s'appelait Cet Extra, tout simplement, c'est parce que vous êtes à l'écoute des mots, vous êtes à l'écoute des autres, à l'écoute de la vie de tous les jours. Et cette chanson, vous l'avez faite parce qu'il y avait une cousine qui disait toujours « Ah, Cet Extra, Cet Extra ».
À ce moment-là, c'était donc en 68, c'était un mot, maintenant on dit « C'est super ».
C'est génial.
C'est génial,
oui.
On disait ça, elle m'a dit « Je regarde cette voiture, les routes extra ». Une cousine plus jeune que moi et me regarde cette fille, elle était extra. Alors j'ai écouté, alors ça c'est fantastique parce que c'était fin décembre 68, je devais faire un disque très 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 vite parce que je faisais Bobino au début janvier et je devais enregistrer le disque qu'on devait immédiatement faire pour que ce soit prêt pour Bobino. Et il me manquait de chansons, il me manquait parce que c'était pas assez long, il y avait deux faces. Alors un matin j'étais dans l'Ardèche, je me suis levé à 4h30, et j'ai écrit les paroles de cet extra et les paroles d'une chanson qui s'appelle L'Idole.
Oui. Bon,
j'avais loué un piano, un petit piano minable, parce que, bon, dans un coin. J'ai fait la musique à 7h du matin, ou à 7h30.
Oui.
J'ai pris mon café, j'ai écrit et j'ai envoyé ça. Je travaillais avec un arrangeur, qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Jean-Michel Defaille, et qui devait faire préparer ces arrangements pour le disque qu'on a enregistré au début janvier. Et alors on m'a dit que tu fais le tube.
C'était un tube.
C'est un petit cube d'aspirine, vous savez, tout petit. Hein. Et non, mais alors vous savez, même dans la maison de disque qui s'appelait Barclay, il ne savait pas. C'est un tube. Le type qui se met à faire un tube, il n'arrive pas à le faire, c'est pas vrai.
Oui,
hein,
oui, oui.
Et un tube, en ce moment, je ne sais pas, je ne dirai pas le nom parce que je l'ignore, qui paraît que c'est un truc qui se vend, hein, qui est minable. Et pourtant, il y a quelque chose, puisque ça se vend, il paraît que c'est le disque qui se vend, vous ne pouvez pas savoir.
Ce sont des coups qui font, hein, qui font une saison.
Je parle d'une femme, je sais pas. Bref. Et il y avait deux faces dans le disque, et on met toujours la première chanson, c'est la chanson à laquelle on croit. Vous savez.
Oui.
Et la chanson, cet extra, c'était en deuxième position.
Oui. En face B.
Oui, face B. Oui, et non, mais puis elle n'était pas la première
je comprends.
Sur le disque. Donc les gens ne savent pas, quoi, c'est vrai. Quoi.
C'est toujours un mystère.
Il y a un mystère, oui. Et puis en plus, cette chanson, les gens, la plupart du temps, n'ont pas compris, parce que c'est une chanson triste.
Oui.
Et je ne peux pas dire qu'elle est triste, il faut que les gens comprennent. S'ils ne comprennent pas, tant pis.
Vous êtes poète, mais vous n'êtes pas enfermé dans votre tour, dans votre image, dans votre nuage. Vous êtes à l'écoute de tout ce qui se passe tous les jours.
Moi, je
ne
suis pas
au courant.
Oui. Ah ouais, là, vous rendez compte.
Mais sinon, vous ne pourriez pas communiquer ?
Absolument pas, non. Qu'est-ce que... Valérie s'est levée à 5h du matin, vous savez, pour écrire. Ça se sent, d'ailleurs.
Et vous levez toujours très tôt pour écrire ?
Non, moi, non, j'écris...
Il n'y a pas d'heure.
Quand j'ai besoin de... Ouais. Parce que quand je suis pris par le temps, oui.
Ouais.
Oui.
Alors, vous dites que vous êtes toujours un gosse, c'est vrai ? Parfois, je vous cite, parfois j'ai 10 000 ans, mais pas longtemps. Passion, enthousiasme, colère, amour, toujours. Mais vous avez un cœur d'enfant, toujours.
Oui. Mais je crois que c'est ma chance.
Oui, c'est ça l'éternelle jeunesse.
Je pense, oui.
Oui.
L'éternelle, enfin, jusqu'à un certain point, mais je suis... Mon fils a 14 ans, je crois qu'il a passé le cap. Il commence à être jeune homme. Hein.
Oui.
Alors je dis toujours qu'un un enfant ressemble au père, à la mère, et oui. puis à lui.
Oui, bien sûr.
Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est lui.
Oui.
Alors je l'écoute, je l'observe, je lui dis rien. Eh bien, je dois dire qu'il a eu 14 ans fin mai. Et il est très souvent plus adulte que moi.
Plus adulte?
Ah ouais.
Plus réfléchi, plus grave? On est plus grave. On est plus grave à l'adolescence.
Je ne sais pas, non. Beaucoup plus près de se faire avoir par le quotidien. Ou par,
oui.
Ou par une femme, peut-être. Parce que les femmes, c'est le quotidien aussi. Qui vous a et comment, quoi. Les femmes sont très fortes, c'est vrai.
Oui.
Et moi, je trouve que la femme est un être irremplaçable, extraordinaire. Mais je m'empêche de dire, quand elle est remplaçable, il ne faut pas hésiter. Vous savez que l'homme hésite, hein, quand il est avec une femme qui a le pouvoir, comme ça. L'homme a toujours
femmes.
Le complexe d'abandon, vous savez.
Oui.
Le mari, par exemple.
Oui.
La femme, jamais.
La femme, elle part.
Elle part,
oui.
Voilà.
C'est ça que c'est brutal, mais elle prend ses décisions.
Eh oui.
Un homme peut supporter une situation un peu difficile.
Supporte parce qu'il a des complexes d'abandon, quoi.
Oui.
C'est vrai.
Alors, Léo Ferré, est-ce que vous avez toujours vos coups de gueule et vos coups de colère?
Si, je...
Vous avez toujours des coups de gueule ou des coups de colère, comme ça, pour,
oui,
le, pour
oui.
les choses qui se passent?
Oui, même tout seul.
Tout seul?
À la maison.
Vous en avez besoin?
Ou dedans? Je sais pas, parce que ça fait partie de mon profond. Et je vous dis, c'est sincère, puisque je suis seul. Alors, donc, c'est comme... Je pleure, des fois.
Hein? Pleurer tout seul?
Tout seul, oui, parce que... Vous savez qu'on peut... Alors, Rochefoucauld disait, on pleure pour être pleuré.
Oui.
C'est-à-dire quand t'as des gens. Hein.
Oui.
Et il m'arrive de pleurer tout seul. Des fois pour des choses qui m'impressionnent. Quoi.
Ou pour des nostalgies?
Non, pas la nostalgie. Je suis pas nostalgique. Je suis possédé par des choses qui me dépassent et auxquelles je m'attends pas. L'année dernière, ou il y a 2 ans, je me souviens pas, j'ai vu un crépuscule fantastique, je me suis mis à pleurer, j'étais seul.
Mm.
Alors... Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça, c'est royal de pouvoir pleurer comme ça devant un crépuscule. C'est un joli cadeau que vous faites, en tout cas.
Oui. Alors, j'y pense, j'ai l'arme aux yeux, voyez.
Dans votre spectacle, moi, j'ai bien aimé les séquences où vous parlez de votre enfance à Monte-Carlo. Vous parlez de votre grand-père, qui était cocher de fiacre.
Oui. Je ne l'ai pas connu, parce qu'il est mort.
Je ne l'ai pas connu. Mais vous parlez des chevaux.
Eh oui, c'est vrai que j'aimais les chevaux, vous savez.
Oui.
Et oui, parce que mon père m'a raconté... Papa, il me disait, son père, il était cocher de fiacre.
Oui.
Et alors, il y avait effectivement des fiacres à Monaco, parce que ça monte, ça descend, Monaco.
Oui.
C'est très petit, il y a 157 hectares, un peu plus maintenant, parce qu'ils ont un peu mangé sur la mer. Vous comprenez, ce que je trouve un peu... Hein, mais ça ne me plaît pas beaucoup, ça. Enfin, et j'allais voir les chevaux, oui. Oui.
Et vous parliez avec les chevaux?
Hein?
Vous parliez aux chevaux?
Quand j'étais petit, peut-être, mais je n'osais pas, vous savez. Je n'osais pas parce qu'il y avait toujours le cocher, là, vous savez. Les cochers. Et puis, il y a une chose qui m'a impressionné, c'est l'histoire de Nietzsche qui s'est pendu au cou d'un cheval à Turin. Et parce qu'on le battait. Fantastique. Et qu'il est devenu... Il était près de la folie, il est devenu fou ce jour-là. Et c'est fantastique que Nietzsche soit pendu au cou d'un cheval. C'est pour ça que je dis qu'il faut être fou pour se pendre au cou d'un cheval et qu'on ne le batte pas, alors je suis fou.
Oui, je me souviens. Est-ce que vous vous rappelez, bon, sans avoir des nostalgies, est-ce que de temps en temps, vous basculez comme ça dans vos souvenirs d'enfance, puisque ça nous quitte jamais à l'enfance?
Non, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, je dis, c'est demain. C'est moi, le passé ne
Oui, vous n'aimez pas le passé, vous ne le regardez
pas
tellement.
Pas du tout,
non.
Parce que, bon, j'en parle parce que... J'en parle en scène, bon, parce que ça fait partie
oui.
de... Et je sais que je me suis mis à être comme ça parce que, par exemple, je parle beaucoup pendant la solitude, parce que la solitude,
oui.
ce qui est important, c'est la solitude de l'artiste, c'est vraiment l'être
oui.
très
oui.
très seul. Hein. Et je le fais comme ça parce que, sinon, il y a longtemps, je ne chanterai plus la solitude parce que je m'ennuie dans cette chanson, vous comprenez, quand...
Nous, on ne s'ennuie pas. Mais c'est vrai que vous faites de longs apartés maintenant.
À un moment donné, oui, je parle, etc. Alors, je m'amuse. Et puis, je n'ai pas écrit tout ça. Je dis souvent les mêmes choses, mais c'est parce que si j'écris ces interventions, comme ça, parler... Ça devient mauvais après. Quand je l'essaie trop, ça va plus, quoi.
Oui.
Je deviens le mauvais comédien.
Alors ça dépend des soirs où vous racontez.
Voilà.
Il y a des soirs où vous racontez.
Ça dépend des soirs. Puis des soirs
différents.
C'est mieux que d'autres soirs, sûrement. Enfin, j'en sais rien, quoi.
Mais moi, j'aime bien ces apartés parce qu'on a l'impression, en tant que spectateur, d'être tout seul avec vous.
Oui, mais c'est bien. Et oui, je comprends très bien ce que vous dites.
Et en plus, vous nous tutoyez.
Oui. Moi, j'ai envie de tutoyer tout le monde.
Oui.
Oui.
C'est le mot qu'il fallait chercher derrière les yeux des autres.
Le mot. Ah, c'est fantastique.
Ça m'a frappé.
C'est l'éternité de l'instant, quoi, l'amour, quoi.
Ouais.
C'est la seule chose inexplicable.
Ouais.
Vous avez à expliquer ça.
Ouais.
Vous pouvez expliquer. Mettons un extraterrestre, n'est-ce pas, il arrive à l'extraterrestre, il vient vous voir. Hein? Et vous pouvez lui tout l'expliquer. Même la droite et la gauche. Parce que vous savez que d'ici, loin, si vous parlez à l'extraterrestre d'être là, vous ne pouvez pas lui dire ce que c'est que la droite ou la gauche. Il ne comprendra jamais.
Oui.
Bon. Eh bien, vous pouvez même lui expliquer ça. Mais vous ne pouvez pas lui expliquer, par exemple, si c'est d'une race d'extraterrestre qui n'a pas de sexe, qui se reproduit autrement, ou qui ne se reproduit pas. Vous ne pouvez pas lui expliquer ce que c'est que l'amour. S'ils sont cimentés, par exemple. S'ils n'ont rien. Quoi. Vous ne pouvez pas expliquer ce que c'est raconter. Essayez de raconter à votre ami, à votre copain, ce que vous ressentez quand c'est fantastique, quand vous vendriez tout pour ne pas rater ça, vous comprenez ? Ce train magique, quoi. Et voilà, c'est la chose la plus extraordinaire qui soit.
C'est ça le fameux mot, alors.
Oui.
Ça m'avait beaucoup intrigué, parce que vous dites, le soir quand
et c'est le mot qui est derrière les yeux de ton camarade, et c'est vrai,
voilà,
ça.
C'est ça, derrière les yeux de ton
moi,
camarade.
Je le vois.
Vous voyez le mot, alors, chez beaucoup de gens. Vous arrivez à voir au-delà des gens ?
Des fois, c'est ouais. Difficile, des fois, oui.
Ouais. Si on parle de l'enfance, ça vous ennuie, Léo Ferré ?
Non, pas du tout, non.
Moi, je sais que vous retournez souvent à Monte Carlo, vous êtes monégasque, non ?
Je ne retourne pas souvent, j'y passe.
Vous y passez ?
J'ai gardé l'appartement que ma mère louait.
Oui.
Parce que ma sœur y va de temps en temps, tout ça. Et puis parce que, bon, c'est un souvenir. Et puis, dans cet appartement, il y a le lit dans lequel je suis né.
Oui.
Alors je le raconte, c'est drôle. Bah,
vous racontez à vos enfants ?
Je raconte à mes enfants, oui.
Oui.
Alors, Monaco, bon... c'était, ça a été extraordinaire pour moi parce que, vous savez, j'ai eu une enfance solitaire, dans le sens que je ne parlais pas, je ne disais rien. J'étais heureux comme tous les enfants, mes parents étaient gentils.
Gentil, oui.
Oui. Et, mon père, c'était le pater familias, hein, ça.
Oui.
Vous savez que ça a changé, ça.
Oui.
Hein, fantastique. Je n'ai tout de même pas vécu au Moyen-Âge. Vous savez que quand j'avais 18 ans, j'étais un garçon, bon, comme ça, qui n'était pas agressif, qui était... j'étais pas trop laid, quand même, bon. Pas moyen de trouver une fille. Mes copains, pareil. Vous savez ça, on vous l'a dit.
Hein. Et pourquoi ?
Je sais pas, parce que ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas.
C'est encore interdit.
On y pensait. Oui, on n'y pensait même pas, nous autres, vous comprenez ?
Ouais.
Moi, je ne peux pas vous dire quelle est la... C'est tellement elles sont peu nombreuses, la fille qui a été pour moi quelque chose de avec laquelle j'ai découvert quelque chose, avec, tout près l'un de l'autre,
oui.
Quand j'avais 18 ans, personne. J'étais à la fac de droit, moi, ici à Paris. Et rien. Je dis toujours que j'allais de temps en temps pour faire l'homme, pour Loire Saint-Denis, où j'avais trouvé une femme qui faisait la profession de l'amour. Et. Qui avait, je m'en souviens parce qu'elle avait, ça m'avait frappé, un manteau de panthère. Mais à ce moment-là, le manteau de panthère, c'était pas comme maintenant, peut-être
oui.
Que c'était une chose, bon, quelqu'un lui avait fait cadeau.
Oui.
Et cette fille, j'avais pas du tout envie de quoi que ce soit, vous savez, vraiment pas. C'était intellectuellement que je faisais ça,
oui.
Pour faire l'homme, vous voyez. Je montais dans l'hôtel, et vous savez qu'après cette procédure un peu de contrôle et tout ça, qui était pénible, n'est-ce pas. Oui, je fais attention quand je parle. Elle se met sur le lit. Et elle me dit... Vous savez qu'il y a une expression que j'aime pas, de chansonnier ou de sous-chansonnier qui dit « sans soupe plus, je me fous à poil », n'est-ce pas ? Bon. Non, elle m'a dit « Si vous me donnez quelque chose en plus, je me déshabille. » Au moment où j'avais soulevé sa jupe et où j'ai vu des bas noirs avec cette peau qui est ce no man's sex, vous savez, fantastique, et ça paraît une chose ridicule. Vous savez, quand on ne connaît pas quelque chose qui vous émeut, rien n'est jamais ridicule. Hein.
C'est vrai.
Et bien, cette culotte et tout ça, et à ce moment-là, je lui dis, surtout pas. Je découvrais ça, vous comprenez.
Il ne fallait pas.
Fantastique, quoi. Il ne fallait pas qu'elle se déshabille.
Il ne fallait pas aller plus loin, finalement.
Ah oui, quand même.
Quand
je sais pas. Peut-être, oui, mais oui, vous avez raison avec cette femme, oui, parce que j'allais là-bas pour le.
comme ça. Puis je sortais, j'étais la voir trois ou quatre fois, cette femme. C'était cher d'ailleurs, parce que j'avais pas beaucoup d'argent, presque rien, quoi. Et je partais tout seul, et j'allais faire l'homme, quoi.
Mais vous avez attendu alors 18 ans pour faire l'homme, parce qu'à la maison, il y avait justement le pater familias.
Non, mais je suis dans une maison, j'avais 15 ans, c'est vrai. Ouais. 15 ans. Ah, c'est horrible, horrible. Et quand je suis sorti avec les copains, on se disait, oh, tu comprends comment c'était. C'était, enfin, bref.
Si je vous dis un chiffre, par exemple, comme le 38, c'est pas un bon numéro que vous aimez, ça?
Non.
Ça rappelle pas de bons souvenirs?
Et ça rappelle.
Ça rappelle quelques souvenirs, quand même.
Hein. 8 ans, oui.
Ouais.
À 8 ans, j'ai la timbale chez moi, et puis le couvert. Le couvert que ma maman avait fait faire à Monsigny, comme je dis. Ça, j'ai quitté ma mère un soir, j'ai dormi la dernière fois, le 1er octobre 1925, dans le petit lit à la maison, quoi.
Ouais.
J'avais 9 ans, donc bon, j'étais encore un enfant quand même. Hein.
Oui.
Eh bien, le lendemain, le 2 octobre soir, je couchais dans un dortoir, on était 40, et au-dessus de mon lit, il y avait le numéro 38. Voilà.
8 ans, et la messe tous les jours, Léo Ferré?
Tous les jours, oui. C'est ignoble.
Ouais.
C'est ignoble, vraiment ignoble, d'imposer ça. Après, on s'y fait. Moi, je pensais à autre chose. J'arrivais même à me cacher, à lire des livres.
Ouais.
À lire des livres, oui. Et j'avais eu le génie, je dois dire, parce que c'était formidable, ça. Il y avait un type qui était sur un escabeau, je ne sais pas comment, une chair.
Ouais.
Et on était tous là, dans les baisers. Et je faisais toujours le contraire de ce que faisaient les autres. C'est-à-dire, lorsqu'ils étaient à genoux, je restais un peu appuyé, assis, vous savez. Lorsqu'ils étaient, et comme on était souvent assis, moi je me mettais à genoux.
Et pourquoi vous
faisiez le contraire? Parce que j'ai disparu aux yeux du type après. Et à ce moment-là, je ne faisais pas exprès, mais je prenais des livres. C'est là où j'ai lu Voltaire.
Oui.
Des poètes, comme ça. Je cachais les choses, quoi.
Mais c'était pas la première fois que vous lisez des poètes si tôt?
Vous savez, les poètes, on ne les lit pas, vous êtes au courant. Oui, personne ne lit les poètes.
Hein. Oui.
Moi, j'étais dans un collège, quand vous parliez de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, là, c'était la fin du monde.
C'était l'horreur.
On ne connaissait pas. Moi, j'ai passé le bac, la première partie du bac, là-bas, on ne connaissait pratiquement rien, quoi. Vous comprenez que quand on hésite sur l'école laïque, je trouve ça ignoble. Hein.
Alors, Léo Ferré, qu'est-ce que vous faisiez rêver, alors, en dehors des poètes, à cette époque-là, au collège ou après, en
la
fac?
Musique.
La musique.
Oui.
En fait, ça...
Mais je me cachais.
Oui, pourquoi?
Parce que, quand j'étais petit, écoutez, lorsque Mathieu avait, en 75, Mathieu avait 5 ans, Mathieu c'est mon fils, on se retrouvait devant l'appartement de ma mère était encore là, parce qu'elle est morte en 78. Il y avait une amie de ma mère, que j'avais connue très bien, et qui me dit, Léo, tu te rappelles, quand tu avais l'âge de Mathieu, donc, quand j'avais 5 ans, là-haut sur les remparts, que tu dirigeais des orchestres imaginaires. Elle n'a pas employé ce mot-là, parce qu'elle ne savait pas ce mot-là, elle ne connaissait pas.
Oui.
Mais je le dis pour qu'on comprenne. Et c'était vrai. J'étais dans la rue, comme ça. On ne passait pas de voiture, rien du tout, quoi. Sur les remparts, maintenant, il passe des voitures, mais... J'étais dans la rue. Je dirigeais des orchestres. Mais je n'avais pratiquement jamais entendu de musique.
Oui.
La radio, c'était... Mm. C'était bien Bonjour d'Alfred.
Oui.
C'était les premières radios.
Oui.
Il y avait encore le truc de la galène. Et c'était extraordinaire parce que je chantais des choses qui montaient du très fond.
Qui étaient en vous?
Hein?
Qui étaient en vous?
Oui, je chantais et alors je dirigeais. Parce qu'un jour on m'avait dit qu'il y avait des chefs d'orchestre, j'avais vu peut-être un type qui dirigeait la fanfare. Hein. Je dirigeais et je m'arrêtais à la répétition. Je disais à la trompette, c'est pas comme ça. Alors j'allais à la place que j'avais imaginée et puis je dis... Alors j'étais parti de là, quoi. Je venais là, je disais, tu vois, c'est pas comme ça. Papa. Ça c'est le si bécard, quoi. Parce que j'avais appris des notes comme ça.
Vous connaissiez le solfège alors?
Non, je ne connais pas encore
le solfège, mais
je connaissais les notes.
Ouais.
Et puis le solfège, je l'ai appris dans ce collège là. Et puis quand cette femme m'a dit ça, je me suis souvenu de ça. Et je pensais que tous les gens étaient comme moi, avec. On dansait, on marchait, on mangeait, on allait travailler, tout ça. Et puis aussi, on faisait de la musique, comme ça. Le jour où je me suis rendu compte que j'avais quelque chose en plus ou en moins que les autres, je me suis caché.
J'ai
caché la musique.
Pourquoi?
Je sais pas, j'avais honte.
Honte?
Voilà.
Parce que c'était pas comme les autres.
Comme les autres,
oui. Ouais.
Et puis un artiste était à descendre demain matin.
Ouais.
C'est vrai, ça. Voilà.
Vous avez une passion pour Beethoven depuis tout petit. Vous l'avez connu très vite.
Il m'est arrivé une chose. J'étais donc au collège, j'avais 11 ou 12 ans. Et moi, je vous dis, la musique, je l'ai connue un peu plus tard, parce que ma mère, des fois, m'envoyait au concert à Monte Carlo. Mais alors là, moi, je ne connaissais pas Beethoven, de nom, bon... On m'avait dit qu'il était sourd, quoi, c'est tout. Et quand ma mère venait me voir au collège, des fois, elle venait pas souvent, mais venait, elle m'amenait dans une petite crèmerie où il y avait, où je mangeais un chocolat chaud. Alors, j'adorais ça parce qu'au collège, il n'y avait pas le chocolat, vous voyez.
Oui.
C'était un bon chocolat. Vous savez que si je voyais rentrer ici, ce type qui me servait, je le reconnaîtrais.
Oui.
Et je mangeais le chocolat, il y avait une radio comme ça, un peu, comme ça, une des premières radios, comme ça, qui marchait avec l'électricité, parce qu'avant, on marchait avec,
oui,
au début avec les batteries. Et tout d'un coup, la cinquième symphonie. Alors, j'ai été comme ça, je me suis mis à pleurer. Ma mère m'a dit, pourquoi tu pleures, Léo? Vous savez ce que je lui ai dit? Eh, parce que tu vas t'en aller tout à l'heure.
Donc vous ne l'avez pas dit la vérité?
Non. Et pourquoi?
Parce que c'était une émotion tellement forte que vous avez voulu la garder pour vous tout seul.
Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas fait cette,
ouais,
réflexion.
Ouais.
C'était tragique. Quoi.
Vous en parlez souvent de Beta, de Ludwig.
Oui.
Ouais. Mais je trouve que vous n'êtes pas loin de lui pour beaucoup de choses. Ça peut être, je ne sais pas, moi je pensais l'autre jour quand je vous écoutais, et j'écoute souvent vos disques, vos musiques, je ne sais pas, vous pourriez être le frère de Baudelaire, de Beethoven. On vous l'a déjà dit, j'imagine.
Bon, je crois qu'on est tous frères, on est si peu nombreux. Et ce qu'on ne peut pas faire, c'est se donner la main, se connaître.
Léo, quand vous étiez plus
jeune,
oui. Quand vous étiez petit garçon, que vous aviez honte de la musique, c'est pour ça que vous avez une chanson où vous dites très fort, la musique dans la rue.
Oui. Non, mais pas la musique dans la rue. Vous savez, aucun pouvoir, de droite, de gauche, de demi-droite, de demi-gauche. Personne. On cache la musique à la misère. Excusez-moi, je prends un peu de...
Non, mais...
On cache la musique, la poésie à la misère. Vous comprenez?
Oui.
On donne la musique. Lorsque... Moi, j'ai fait le... Écoutez, je parle de moi parce que... Ben, je me connais un petit peu. Bon. J'ai fait ce concert... pendant un mois, le même concert au Palais des Congrès, avec l'Orchestre Padeloup. Il y avait 70 musiciens, 60 choristes. Il y avait du monde sur la salle. Parce qu'un producteur avait pris le risque de le faire. Et si ça n'avait pas marché, ben, c'était embêtant, quoi. Il y avait 3700 places. On a fait pratiquement plein pendant un mois, pendant 25 représentations. Quel est le... Il y avait Beethoven, Ravel, concerto pour la main gauche. Quel est le chef d'orchestre depuis qu'il y a des concerts, depuis qu'on fait des concerts? C'est pas si loin que ça, parce que ça a commencé un peu à Mozart, les concerts, un petit peu avant, comme si Beethoven, quoi, encore que les orchestres n'étaient pas nombreux, puisque pour la cinquième symphonie, il y avait cinq premiers violons, vous comprenez? Bon, aujourd'hui, combien il y en a? Quel est le chef d'orchestre qui fait le même concert pendant un mois, dans la même salle de 3700 personnes? Hein? Vous savez pourquoi? Non, pas qu'ils n'aient pas de talent, hein. D'abord, c'est Beethoven qui a du talent, hein, avant. Ben. Maintenant, ils se prennent tous. Si vous voyez, bon, après, je vous le dirai. Quel est le type? Pourquoi? Parce que les gens ne viennent pas. J'ai dit, s'il y a 3000 manteaux de vison à Paris, ou 4000, quand ils sont venus, ben, c'est fini, vous comprenez? C'est une image, hein. Bon. Et je le dis parce que personne ne le dit, vous comprenez? Voilà.
Mais vous le dites en chanson, de toute façon, déjà, vous avez déjà défendu mille fois.
Oui, mais ça
peut... Vous avez hurlé, déjà, tout
non,
ça.
Non, mais c'est bien, puis quand ils disent la musique dans la rue, il faudrait bien de citer, vous voyez, ils disent rien du tout. C'est horrible, c'est ouf, ça me fait dégueuler. Maintenant, je n'ai même plus envie de râler, parce que, qu'est-ce que vous voulez, puis c'est pas pour moi, en plus. Je pense aux musiciens, puis, enfin, vous savez que dans la dernière cadence du concerto pour la main gauche, qui était joué par un pianiste extraordinaire qui s'appelle Daga Schatz, j'avais dit à l'électricien de fermer les lumières, toutes les lumières, pour laisser uniquement la main gauche du pianiste. Et alors je regardais la salle. C'était fantastique, le silence comme ça. Vous comprenez? Et la plupart des gens ne connaissaient pas. Même des gens intelligents qui ont été à l'école, non, moi, les gens qui aiment la musique, ça s'intéresse. Mais la plupart, vous comprenez? Et je dis, on cache la musique à la misère. C'est ignoble.
Léo Ferré, quand est-ce que vous avez approché un piano, alors, pour la première fois, d'une façon comme ça, un peu...
Ma sœur avait un piano, parce que mon père lui faisait étudier le piano. Alors moi, de temps en temps, j'allais un peu voir comme ça, je tapotais. Oui. Et puis, j'ai appris le piano comme ça, un peu au collège. parce qu'il y avait une femme qui venait deux fois par semaine donner une leçon pendant une demi-heure, et puis on n'apprenait pas, donc ça ne servait à rien, quoi. Mais je ne suis pas un pianiste, alors. Je suis pianiste pour moi, non.
Vous pensez que vous n'êtes pas un pianiste?
Non, je ne suis pas pianiste, non. Pianiste, c'est... Il travaille 8 heures, hein.
Oui, mais quand on vous voit jouer, quand on vous entend jouer, parce que je vous ai vu aussi jouer vos mains, eh bien, vous êtes un pianiste, parce que vous avez ça dans la peau. C'est plus important.
Je ne sais pas, mais il me manque. Je ne travaille jamais, vous comprenez?
Oui.
Je ne travaille pas, non.
Mais
même
si
la
vous
voix.
Jouez pas.
Vous savez, moi, j'ai de la voix. Je disais tout à l'heure à Marie, hein, je dis, tu vois, il y a longtemps que je lui dis, si je faisais tous les jours un peu, 5 minutes des vocalises. J'aurais beaucoup moins de peine. J'ai pas de peine à chanter,
oui.
Mais ce serait mieux fait aussi, parce que c'est pas toujours terrible, hein, moi je le sais. Hein. Mais non, vous comprenez. Si vous me faites faire ça, obligé tous les jours,
je
si
vous faites pas.
Eh non, je fais pas, parce que obligé, je fais rien, quoi.
Oui. Et vous verrez maintenant, vous êtes un pater familias, vous aussi.
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Non.
Vous avez une tribu.
Non, je suis pas une tribu, j'ai 3 enfants, et puis je les regarde vivre, et puis je les ennuie jamais.
Oui.
J'ai dit à mon fils, il avait 3 ans, je lui ai dit, tu viens pas dans mon jardin. Je ne viens pas dans le tien. Mon jardin, c'est le piano, bien
oui, le truc,
là où je travaille. Et son jardin, lui, c'est son jeu, c'est tout. Maintenant, c'est son computer, là. Pff, et des fois, un peu, il rentre un peu avec des copains. L'autre jour, je lui ai dit, j'ai gueulé comme un âne. Alors, ils sont partis. Mais sinon, on se respecte. Alors, il n'y a pas de raison que je les ennuie, hein, du tout.
Oui, mais vous parlez beaucoup avec Mathieu, avec Marie.
Je commence à parler.
Mais avec Manuela.
Il est venu en Italie avant de venir ici. Quelques jours, le 16, j'avais chanté dans un petit village à côté où je connais le maire pour lui faire plaisir. Il est venu m'écouter et en partant, en sortant, il m'a dit, tu sais, papa, j'ai pleuré.
Alors c'était la première fois qu'il vous écoutait vraiment?
Oui, il m'écoutait les disques, je trouve
ça.
Oui,
c'est la première fois qu'il vous voyait comme ça.
Oui, qu'il m'écoutait vraiment. Puis il vient samedi ici.
Léo Ferré, Marie, ça a tout changé dans votre vie?
Tout.
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 Ouais.
Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne rentre pas dans ma tête.
Qu'est-ce que c'est une femme qui ne rentre pas dans la tête?
Et c'est une femme que vous aimez, qui respecte ce que vous faites, votre.
Ouais.
L'artiste est seul. Dans ma tête, je suis seul, vous comprenez?
Ouais. Ouais,
bon.
Elle respecte la solitude de l'artiste.
Absolument.
Et elle est là.
Elle est là, oui.
Et vous savez qu'elle est là?
Je sais qu'elle est là. Non, elle m'aide parce que. Petit à petit, après l'habitude, bien sûr, de venir avec moi partout. Elle conduit la voiture parce que. Moi, je m'y ennuie parce que si elle conduit pas la voiture, elle est malade.
Mm.
Ça, elle ne peut pas ne pas conduire,
oui,
elle est malade.
Je comprends.
Alors, moi, je suis là. Enfin, vous restez. Il est beaucoup plus difficile de rester pendant 10 heures dans une voiture, ça nous arrive, 8 ou 10 heures, à côté, ça fatigue plus le type qui ne conduit pas que celui qui conduit, vous savez.
Ouais.
Terrible, hein. Alors maintenant, puis elle vient, elle m'aide beaucoup, puis elle me surveille, vous comprenez.
Elle s'occupe de vous?
Oui, puis elle me surveille.
C'est quoi surveiller?
Surveiller. Vous imaginez ce que ça veut dire.
Oui.
Voilà,
Léo Ferré, vous l'aviez espéré, Marie, vous l'attendiez ou...
Je sais pas, non.
Vous avez très bien su ne pas la rater.
Mais vous savez, je pense que les choses arrivent comme ça.
Mais vous l'attendiez?
Non.
Peut-être?
Non, je crois que j'étais plus désespéré. À un certain point, je dis... moi, j'ai dit à quelqu'un un jour où j'attendais. J'ai dit qu'un homme, quand il est une femme avec une femme qui n'est pas comme il faut pour lui, est très patient. Et un jour, j'avais dit, fais gaffe, le jour où je m'en vais, tu ne me verras plus. Et un jour, je suis parti.
Et la passion, c'est bien, vous dites, mais la tendresse, c'est encore beaucoup mieux.
Ah non, la tendresse, c'est le bâtard de l'amour. C'est terrible, la tendresse.
Oui.
Ça tue l'amour.
Ah, mais pourtant, vous parlez de tendresse.
L'amour, c'est... Non, mais moi, je parle de tendresse. La tendresse, oui, parce que la tendresse, c'est le... Qu'est-ce que ça peut... Comment je... je parle de tendresse, mais je... La tendresse, c'est le bâtard de l'amour. Ça tue l'amour, ça tue l'amour, ça tue l'amour, ça tue l'amour. Vous avez compris?
Oui.
Est-ce que je veux dire?
Oui, très bien. Parce que c'est trop sécurisant?
Je sais pas, non, j'ai pas fait la réflexion comme ça, mais... Allez savoir, c'est autre chose, quoi. Ça tue le truc, quoi. Rien à faire.
Ah, vous êtes toujours en passion, Léo Ferré? Pour quelque chose?
Ah, je
pour quelqu'un?
Je peux pas dire, oh, ben, je sais pas.
Vous êtes un passionné, quand même.
Moi, j'ai cette faculté, je peux inventer, oui.
Inventer quoi? Des passions? Des choses?
Des choses.
Et vous dites sans arrêt que vous êtes un homme calme. Au fond.
Oui, oui au fond, mais je, au fond, je ne suis pas. Je suis à l'ébullition permanente, mais ça ne se voit pas.
Ouais. On peut être calme, mais pas tranquille, en fait.
Oui, sûrement, oui.
Ouais.
Oui.
Vous avez parti un
peu. Oui, le 20, parce que ça me fait plaisir. Décembre, je chante avec l'orchestre de Nancy. J'ai un copain qui est flûtiste là-bas, qui m'a demandé d'aller là-bas.
Oui.
Il s'est arrangé avec l'orchestre. Alors, voyez-vous, quand on m'offre un orchestre, je suis bien content, parce que je suis le seul chef d'orchestre, enfin, chef d'orchestre, pas tellement chef d'orchestre, puisqu'on m'autorise pas à l'être, qui suis obligé de payer les orchestres, de les faire payer, vous comprenez. Mmh. Demandez à Karajan, il paye les orchestres, lui. Ou à Bernstein, hein. L'année dernière, je vous dis un truc parce que j'avais beaucoup d'estime pour ce type. À Florence, il y a 2 ans, on est passé, j'ai vu une grande affiche avec Bernstein, sa photo comme ça, formidable. Ce que je comprends, puisqu'il attire le monde.
Mm-hmm.
Ça, et au-dessus, il y avait Beethoven, Bernstein. Hein?
À égalité.
Alors j'ai dit à Marie, écoute, il ne peut pas le laisser seul, même un peu plus petit, quoi. Et puis il y a sa photo, il met son nom dessous, quoi. Il me semble, quoi. Hein? Bon. Il a été, c'était pour l'Orchestre Philharmonique de Vienne, je sais pas si c'était Salzbourg, oui, enfin, et ils ont enregistré une vidéo qu'ils ont pris en Italie, et que moi j'ai copié, qu'ils ont passé en Italie, que j'ai copié,
oui.
Les 9 symphonies de Beethoven. Alors il y avait des interviews, tout ça, et vous savez comment, ça a changé maintenant, tenez-vous bien, maintenant c'est plus Beethoven-Bernstein, c'est Bernstein-Beethoven. C'est fantastique. Alors ça, si je le rencontre, je lui fais pam 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 pam, ça va, vous comprenez, hein? Oui. Non, c'est ignoble.
Mais vous allez nous revenir après, encore à Paris?
Oui, je pense, oui. Je reviendrai à l'Olympia.
Oui?
Oui, sûrement. Il y a longtemps que je ne suis pas venu. Puis
ça, vous avez 12 ans, vous n'étiez pas venu pour près ça?
À l'Olympia, oui.
Ouais. Oui. Mais au Ferré, je suis triste parce que le temps passe pas et on n'a plus.
Oui, je suis très content de vous avoir connu et quand vous voulez remettre ça, on le remettra ça comme vous voulez.
Vous m'avez fait un très joli cadeau. Moi et un mais sans sommeil, certainement. Merci, Léo Ferré. Au revoir.
Dormez un petit coup quand même.